Chers amis des cellules, bonjour. Nous méditerons aujourd'hui l'évangile de dimanche prochain que l'on trouve en Saint Matthieu au chapitre 21, les versets 33 à 46. Il s'agit de la parabole que l'on nomme la parabole des vignerons homicides. Commençons par quelques petits rappels pour situer le texte. Ces derniers dimanches, nous avons assisté à une invitation à renouveler notre façon d'agir. Il y a 15 jours, avec la parabole des ouvriers de la 11e heure, c'était l'exhortation à s'engager, à travailler à la vigne du Seigneur, quand bien même il était très tard dans la journée, par confiance en la bonté du Maître qui donnera le nécessaire à la vie de chacun. La semaine dernière, l'Évangile nous parlait de l'accomplissement effectif de la volonté du Père, en acceptant de revenir sur le refus initial, mais en y allant quand même. Aujourd'hui, le ton est un peu différent, et le ton est un peu plus difficile à recevoir, plus désagréable à entendre, certainement. En effet, nous nous trouvons face à un rappel des responsabilités et de la réalité des conséquences quand on refuse d'exercer ses responsabilités. Notez que nous lirons trois versets en plus qui font partie de l'épisode et que l'on n'entendra pas dans le lectionnaire. Ces trois versets apportent une meilleure compréhension pourtant du texte. Dans notre étude, nous serons tout particulièrement attentifs à la pédagogie de Jésus et dans un deuxième temps, nous regarderons ce que peut signifier pour nous aujourd'hui refuser de donner le fruit de la vigne. Mais lisons le texte. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Et voici les versets ajoutés. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Fin de la lecture. Notre texte nous met face à deux images, celle de la vigne et celle de la pierre d'angle. La parabole de la vigne nous présente ceci. Les vignerons refusent obstinément et violemment de donner au maître le produit de la vigne. Ils seront écartés et d'autres prendront leur place et le fruit sera remis au maître. L'image de la pierre souligne quant à elle que c'est bien au fils qui fut rejeté et mis à mort que sera remis le fruit. Nous sommes face à un reproche adressée aux chefs du peuple. Leur façon d'exercer leurs responsabilités ne permet pas à Israël de donner à Dieu ce qu'il attend. Israël représenté comme la vigne du Seigneur. En effet, Dieu attend un peuple saint, un peuple qui soit sel de la terre et lumière du monde, comme le disait Jésus dans le discours sur la montagne, un peuple aussi qui se donne au Christ. Jésus dévoile par la même occasion le désir meurtrier qui grandit dans le cœur des chefs du peuple et des pharisiens à son égard. Contemplons la pédagogie de Jésus dans cet épisode. Jésus n'esquive pas la part désagréable de l'éducation lorsqu'il faut rappeler à l'ordre ce qui dévie. Si un enfant doit finir ses devoirs de classe avant d'aller jouer avec ses camarades, c'est le rôle du parent de lui dire « Tu n'as pas fini tes devoirs, finis-les, sinon tu ne sortiras pas pour aller jouer avec tes camarades. » Ce n'est pas très agréable, ni à dire ni à entendre, mais il est essentiel de rappeler les gens à leurs responsabilités si on veut qu'ils puissent grandir, et si l'on veut qu'ils grandissent comme des gens fiables sur qui l'on peut compter. Là, le sujet est plus délicat que simplement de ne pas faire ses devoirs de classe et d'aller jouer avec ses camarades. Il s'agit de la perte du royaume de Dieu, parce qu'on ne permet pas au peuple de porter le fruit de sainteté que Dieu attend. Le Christ énonce à la fois ce qui était attendu, la responsabilité qu'on voulait voir exercée, le résultat qu'on espérait, et il énonce aussi la conséquence de l'absence de ce résultat. La sentence, la peine qui sera appliquée si les responsabilités ne sont pas correctement exercées et remplies. Il n'est pas facile d'entendre ni de faire un rappel à l'ordre, mais c'est quelque chose de pourtant fondamental. Sinon on va tomber dans l'illusion qu'il n'y a pas de conséquences. Je ne fais pas ce que je dois faire, ce n'est pas grave, de toute façon personne n'attend un résultat, personne ne me demande des comptes. Non, un résultat est attendu, on vous demandera des comptes, vous porterez votre responsabilité. Porter la responsabilité d'ailleurs, ce n'est pas simplement risquer de prendre des coups de bâton. Porter la responsabilité, c'est aussi pouvoir entrer dans la joie du maître. C'est se réjouir avec le maître devant le fruit qui a été produit. Celui qui a perdu de vue qu'il devait produire un résultat se prive de la possibilité de cette joie. Le rappel à l'ordre est un peu amer, il secoue, mais il remet en capacité de vivre cette joie, de participer à la joie du maître. Mais regardons aussi la façon dont Jésus s'y est pris. Jésus n'a pas commencé par un reproche brut adressé aux chefs du peuple et aux pharisiens. Il a utilisé une parabole, il a utilisé une histoire qui va permettre de prendre du recul, qui va permettre de prendre du recul pour exercer un discernement. C'est un stratagème qui donne plus de liberté d'évaluation que si l'on se sent directement mis en cause. Quand on nous approche en disant « tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela », on a tendance à ne plus examiner la justice réelle de la situation, mais à essayer simplement de se justifier. On perd de vue souvent le problème en essayant simplement de dégager notre responsabilité. « Ce n'était pas à moi de le faire, un autre m'a empêché, qui es-tu pour me faire des reproches, etc. etc. » L'histoire de la parabole permet aux chefs des prêtres et aux pharisiens de prendre un certain recul. Et du coup, Jésus leur fait prononcer le jugement de la situation. C'est eux-mêmes qui disent « Ces vignerons misérables, il les fera périr et il donnera la vigne à d'autres vignerons qui en donneront le fruit au temps voulu. » Ils sont capables de porter un jugement sur la situation. Ils sont capables de porter un jugement sur une situation analogue. Il les a mis en condition d'exercer leur sens de la justice, ce qui est très intéressant. Plutôt que d'énoncer une sentence, il leur fait eux-mêmes exercer ce sens de la justice pour arriver eux-mêmes à la conclusion. il n'énonce qu'ensuite la sentence en revenant la situation. Amen, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Cette façon de procéder de Jésus peut nous inspirer lorsque nous avons à énoncer un reproche pour rétablir une situation. Avant de faire une mise en accusation directe, peut-être serait-il judicieux de faire exercer par la personne elle-même son sens de la justice sur une situation analogue, avec une histoire ou avec un exemple. Cela donnera du recul et la pointe sera plus facile à entendre puisque la personne aura elle-même exercé sa capacité de jugement. L'épisode nous montre cependant que le résultat n'est pas garanti, c'est-à-dire qu'une conversion n'est pas garantie même par ce stratagème. Nous voyons un résultat d'endurcissement dans notre texte, la volonté même de s'en prendre à celui qui dévoile l'iniquité à Jésus plutôt que de se convertir. Il voudrait bien se saisir de lui, mais les circonstances ne leur permettent pas de faire le mal qu'ils auraient voulu. Ils ont peur de la foule qui tient Jésus pour un prophète. Il n'empêche, Jésus s'est donné les moyens de faciliter l'écoute du reproche et donc l'appel à la conversion qu'il leur adressait, en même temps qu'il leur rappelait la sentence, le poids qu'ils auraient à porter s'ils ne remplissaient pas leur fonction correctement. Interrogeons-nous maintenant sur ce que signifie ne pas remettre le fruit à Dieu et ce que cela signifie pour nos cellules, pour notre propre cellule. Le fruit de la vigne, c'est un peuple qui vit de l'alliance avec Dieu, qui vit de la lumière de Dieu, qui vit du sel de Dieu. Or, le désir de Dieu, c'est que ce peuple soit sel de la terre, lumière du monde. Si le peuple vit replié sur lui-même, si le peuple ne fait pas l'effort d'aller porter son sel et sa lumière au monde, d'aller l'offrir, alors justement le peuple a cessé de remplir sa mission. S'il n'ose pas partager l'alliance avec Dieu autour de lui, il devient comme ces vignerons qui refusent de remettre le fruit au maître de la vigne. Ne pas remettre le fruit à Dieu, c'est ne pas oser la mission, c'est ne pas oser interpeller notre oikos, c'est ne pas croire qu'il est fait pour la bonne nouvelle, c'est se contenter finalement d'être replié sur soi, d'être un groupe sympathique peut-être, mais qui fait de l'entre-soi. C'est ne pas oser annoncer, c'est ne pas oser inviter. Remettre le fruit à Dieu, c'est annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu sera dans le petit à qui nous annonçons la bonne nouvelle. C'est ainsi que nous lui remettrons le fruit de la vigne. Un dernier élément. De la même façon que les chefs des prêtres et les pharisiens ne se sont pas convertis, qu'ils se sont au contraire endurcis, nous pouvons constater en nous une résistance à la mission, une résistance à oser annoncer l'Évangile. Sachons que cette résistance n'est pas qu'une affaire de volonté. Il ne suffit pas de dire « bon, je me prends en main et maintenant tout va aller ». Cette résistance, elle doit être brisée sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Ça veut dire recevoir cette grâce. Ça veut dire donc aussi la demander. « Seigneur, je vois qu'il y a en moi une peur. Je vois qu'il y a en moi une timidité. Je vois qu'il y a en moi un manque de confiance dans la capacité à l'autre d'écouter. » Donne-moi ta grâce pour être missionnaire, pour porter le fruit que tu veux que je porte. La prise de conscience de cette résistance, voire de cette rage qui peut être en nous, ne doit pas nous désespérer face à la faiblesse de notre volonté, mais doit nous donner de demander la grâce. Ça, c'est notre responsabilité. Seigneur, donne-moi la grâce d'être missionnaire parce que je résiste ici, je résiste là. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être trois choses en particulier. Premièrement, nos actes ont des conséquences dont il faudra rendre compte. Deuxièmement, pour énoncer un reproche, tâchons de mobiliser le sens de la justice de l'autre. Rappelons-nous le stratagème de l'histoire que Jésus utilise. Troisièmement, face à notre résistance à la mission, pour qu'elle soit dépassée, demandez la grâce. La mission n'est pas qu'affaire de volonté, elle est affaire de grâce que nous devons demander. Je vous souhaite de bons échanges.